L'ouverture d'une porte de cellule. L'ouverture d'une porte de cellule. L'ouverture d'une... L'ouverture...
Je regarde s'ils sont présents, et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence, en permanence, en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé. La télé.
Un matin.
Dans les cours de promenade.
Bonsoir.
Salut.
Est-ce qu'on m'entend ? Oui, c'est ça. Eh bien, vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Duo 89.5 FM et en direct également sur Radio Canus en 2.2 à Lyon. Émission Papillon, émission contre la prison. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, au programme, eh ben, on aura un appel de Rosa de Marseille qui nous parlera de la situation de Samy Mute. On reviendra aussi sur deux, trois petites choses qui sont passées dans les tribunaux locaux, à Rouen et à Saint-Étienne. Et on va arrêter ce sommaire et puis sans plus attendre, on va lire une lettre d'un collectif de prisonniers qui est sorti récemment sur un site qui s'appelle À l'Ouest. Et cette lettre revient sur le projet du gouvernement d'installer des téléphones dans les cellules. Voilà.
Voilà, donc on n'a pas plus d'infos par contre sur la, on va dire sur la source en fait, c'est des témoignages qui sortent, enfin des écrits qui sortent sur ce site internet là, qui est un site internet libre de la ville de Rouen. On avait déjà lu un de ces textes, le deuxième qu'ils ont sorti, qui revenait sur le mouvement de grève des surveillants. Et le premier texte qu'ils ont sorti, c'est justement sur le fait de mettre des téléphones dans les cellules. Là, on en a parlé il y a quelques mois. C'est une annonce du gouvernement. Donc alors voilà, on va peut-être relire le texte de présentation. Donc il dit « Nous sommes un collectif de détenus qui a trouvé un espace de parole. Pour de multiples raisons de sécurité, c'est la seule information que nous décidons de communiquer. Le type d'établissement, l'endroit de nos incarcérations, le contexte dans lequel nous nous exprimons, tout ceci restera secret. » Dans la lignée d'Antonin Bernanos qui s'est récemment exprimé depuis Fleury, nous souhaitons nous aussi raconter notre quotidien. Nous souhaitons notamment réagir au débat sur le téléphone en détention qui est apparu dans les médias et sur les réseaux sociaux au début de l'année. Nous pensons tout d'abord que c'est un sujet qui ne sert qu'aux politiques pour faire parler, mais nous considérons que rien ne changera et que cette perspective ne se réalisera jamais. Cependant, nous allons essayer de faire un état des lieux de la situation actuelle, tant sur la question des moyens de communication que sur la question de confort en prison qui alimente les débats dans notre société. À ce jour, communiquer est un luxe et appeler ses proches nécessite plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut que le juge valide les numéros que nous souhaitons appeler, ce qui peut durer très longtemps. Une fois possible, nous devons charger un code qui nous permettra d'appeler. Les appels coûtent cher, très cher. Certains d'entre nous payent 40 euros par mois pour quelques appels, 20 minutes, 3 fois par semaine. Et appeler à l'étranger est encore plus cher. Tout ça pour des communications qui sont écoutées par l'administration pénitentiaire. En milieu ouvert, des personnes ont les appels illimités pour 20 euros par mois. Posséder un téléphone dans sa cellule ne changera rien au coût qui restera inaccessible à tous les détenus. Par contre, c'est une belle source financière pour l'État. Avoir un téléphone portable en détention est bien sûr interdit, mais la réalité est tout autre. L'administration pénitentiaire s'arrange de ce petit manquement au règlement. Le téléphone portable, comme le cannabis, reste un moyen pour acheter la paix sociale et la tranquillité. C'est aussi un moyen pour les services pénitentiaires de résoudre des affaires en écoutant les communications. Nombre de camarades détenus ont vu de nouvelles affaires apparaître en détention par manque de discrétion téléphonique. Ce débat nous permet d'exprimer notre point de vue sur la question du confort en prison. On peut me mettre, alors là je pense que c'est une exergue, hein, une citation, on peut me mettre dans une cellule en or que ça ne changera pas la privation de liberté que je subis. Être en prison signifie être privé de liberté. Que nous possédions un téléphone, un jacuzzi, une télé ou tout autre objet de confort, notre situation ne change pas. Nous sommes et resterons enfermés, sans accès au monde extérieur autre que par les médias, sans la liberté de voir nos familles régulièrement. D'ailleurs, parlons de nos familles. Être en prison, c'est aussi être éloigné de sa famille. L'une des choses que l'on apprend vite en détention, c'est la mobilité. Être changé de lieu de détention du jour au lendemain, sans préparation ni explication, est notre quotidien. Rien n'est jamais sûr. Pour nos familles, c'est la même galère. Venir nous voir relève parfois de l'aventure. Prendre les enfants, monter dans la voiture ou prendre le train, faire la route, subir les embouteillages ou les retards de la SNCF. Certaines de nos familles font des centaines de kilomètres pour venir nous voir. Tout ça pour 45 minutes. C'est le temps accordé au parloir. Le retard n'est pas admis par l'administration pénitentiaire. Si nos familles loupent l'entrée en détention pour le parloir, c'est fini, on leur laissera aucune possibilité de rentrer. Des heures de route, une organisation familiale complexe, parfois un lever aux aurores pour se voir refuser l'accès au parloir. Essayez d'imaginer la violence pour nous d'apprendre au dernier moment que notre parloir est annulé, alors que nous étions préparés. La détention, c'est la coupure de nos liens familiaux. Nous, détenus, souhaitons vous dire que le confort matériel ne remplacera jamais le confort psychosocial que nous permet la liberté. Vous pouvez continuer de débattre sur des sujets futiles qui ne changent rien à nos conditions et à ne pas voir la violence de la justice et de l'administration pénitentiaire, violence psychologique mais aussi physique. Nous avons lu les commentaires sur les réseaux sociaux, les fantasmes partagés sur la prison qui serait comme le Club Med, sous prétexte qu'on réfléchit à installer des téléphones dans nos cellules. Nous pourrions vous raconter notre quotidien fait d'humiliation, de violence et d'amalgame pendant des heures. Un téléphone ne remplacera jamais nos droits à être considérés comme des êtres humains dans la dignité et le respect. Voilà.
Ensuite.
On va enchaîner tout de suite avec. On va revenir en fait un peu indirectement sur le sujet qui nous a bien préoccupé à la dernière émission, c'est-à-dire le mouvement des surveillants et entre autres les conséquences sur l'intérieur. Il se trouve qu'il y a un prisonnier de Vendin-le-Vieil qui s'appelle Mohamed, qui a écrit à l'envolée et qui a aussi écrit à la direction de Vendin ou à la DISP ou les deux sûrement, et du coup qui a envoyé une copie à l'envolée qui revient précisément sur ce qui a lancé le mouvement de grève des matons, à savoir l'agression d'un surveillant à Vendin-le-Vieil par un détenu radicalisé d'après les médias. Donc voilà, on va passer le petit enregistrement de la lecture de sa lettre.
Objet, l'affaire Garzinski, mes conditions au quartier disciplinaire. J'imagine qu'un regard neuf peut vous aider à raisonner mieux. Et puis le messager d'Allah a dit « Le meilleur des combats est une parole de vérité dite à un tyran ». Que pensez-vous d'un homme qui a fait 13 ans de prison, plein, avec l'espoir de rentrer chez lui, qu'il transmet à sa famille, à chaque parloir, afin de peut-être trouver un peu de repos. Puis il s'aperçoit, quelques mois avant la sortie qu'on lui avait promise, s'il se tenait bien, qu'on veut l'extrader loin de sa famille, afin de s'assurer qu'il mourra bien dans une cellule. On l'isole juste avant, en espérant de sa soumission de façade, passivité et résignation. Eh bien, non, l'homme a pris couteau et ciseaux et a attaqué ceux chargés de le garder afin que le stratagème mis en place se passe dans le calme. Moi, je dis que ce n'est peut-être que la réaction d'un homme désabusé, mais pas résigné à vous laisser faire. Ça aurait pu être comme à Fleury dans les années 90. On faisait miroiter la liberté aux détenus jusqu'au greffe, puis on leur disait « On vient de vous révoquer un sursis, vous retournez en détention », alors que les parents de celui-ci l'attendaient à moins de 100 mètres. Heureux croyant revoir leur fils, bien souvent, les détenus pétaient un câble et devenaient agressifs et tout le monde le comprenait, sauf la paix. Pourquoi, pour Garzinski, ce serait différent ? Pour une fois placé au QD ou en redétention, il se suicidait, ce qui n'étonnait personne, mais cela nous aurait bien arrangé. Vous aurait bien arrangé. Grâce à Allah, ce n'est pas ce qu'a fait Garzinski. Donnez la version que vous voudrez à cette affaire, mais moi, depuis son arrivée à l'isolement jusqu'à son acte, j'étais présent. Donc vos mensonges ne me trompent pas. 2. Je vois que vous avez fait de votre maison centrale une petite maison de torture. Je suis au QD depuis hier, 17h, le 13 février 18, déjà 2 coupures de chauffage, hier de 19h30 à 22h30, avec ouverture du hublot de 19h30 à 21h. Hublot, fenêtre sur le toit qui donne dans la cellule, le 14 février 2018, coupure à nouveau de 13h à 15h30. Pas cool. Dixit, mon voisin de cellule, c'est la première fois en 2 mois que je viens de passer ici. Pour info, vous ne donnez aux détenus qu'une raclette pour nettoyer la cellule, QD. Pas étonnant qu'il y ait une surcouche de crasse de 1 an au moins dans tous les angles inaccessibles. Mur du lit, mur de table fixe et ses recoins. De quoi remplir une barquette et boucher systématiquement le siphon douche intérieur à chaque nettoyage. Et j'ajouterai avec son fumet d'odeur. En plus de cela, en leur refusant pelle et refusant la pelle à balayette plastique. Toutes les saletés sont charriées jusqu'à la trappe d'égout par la sortie de l'eau qui est à l'intérieur de la cellule. Bref, ce qui fait que la nourriture, la bouche, et si un homme urine en prenant sa douche, cela vous donne un cocktail d'odeurs dans la cellule des plus abjectes. À vue de nez, mi-pisse, mi-odeur de pied, plus 100% caniveau. Pas cool. Une pelle plastique plus balayette ne représente aucun danger et même pas besoin d'ouverture de la grille vu que ça passe en dessous. Que du mieux. Et ce serait non pas gage de propreté, mais simplement la possibilité de vivre 10 à 30 jours dans un endroit décent. Je sais bien que ce n'est pas le projet ambiant, souligné. 3. Par ailleurs, je vous remercie de ne pas m'avoir placé dans la cellule 7 et 8 qui sont occupées du QD, qui sont, paraît-il, les cellules de force où la détention a fait fixer une planche de bois sur l'aération chauffage pour la condamnée et une autre sur la ventilation pas cool, ce qui donne en été une cellule surchauffée, j'imagine, avec un air irrespirable et nauséabond, jamais renouvelé. Et en hiver, un congélateur alimenté par le froid des murs qui donne dehors, vu que la 8 est la dernière cellule. Cerise sur la torture, si vous gazez un mec, c'est l'asphyxie assurée avec la fenêtre de 10 cm d'ouverture en capacité sur 1,10 m. Pas cool, vu que le surveillant a constamment la main sur la lacrymo. 3. Je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes donné la peine de mettre des trappes à 3 cellules de QI, 3 semaines avant mon arrivée ici. Quand même 5 ans sans répondre à vos agressions. Par les mains et pas de violence après de la javel jetée sur mes affaires par vos agents devraient vous mettre la puce à l'oreille plus les affaires officielles plus journaux, etc. etc. Vous sauter dessus n'est pas le projet, entre guillemets. Le docteur Stiffer, psychiatre, vous l'a dit par écrit dans son expertise en 2012. Sérieux. Il prolonge sa lettre à 19h. Bonne nouvelle pour l'odeur de pisse ambiante. Des gens ont mis de la pisse sur le mobilier et sous le lit, puis ont dû mettre un coup de raclette vu qu'il n'y a aucune trace jaune sur le sol. J'ai nettoyé tout ça. Mauvaise nouvelle, lorsque j'ai demandé de la javel aux surveillants, dont ceux qui m'ont bidonné le cri qui me vaut les 10 jours de QD, ils m'ont dit « on n'a rien d'autre ». Enfin, il n'y a pas à se plaindre venant de ces gens, ça aurait pu être bien autre chose. Et la promenade qui était de 1h matin et 1h après-midi jusqu'à ce jour est passée à 1h depuis mon arrivée. Pas cool.
Et voilà, donc c'était lettre de Mohamed, hein, c'est ambiance à Vendin-le-Vieil. Voilà, on rappelle que c'est de là où est parti le mouvement, et justement le mouvement de grève de surveillants. Et justement à la fin de sa lettre, il fait référence aux heures de promenade qui ont été sucrées. Qui continuent en fait d'être sucrées. C'est une habitude qui avait été prise pendant leur mouvement de grève et qui continue. Donc voilà, il s'est passé la même chose visiblement à Gradignan, puisque dans la semaine, là, il y a eu un mouvement de prisonniers cette fois, où 82 prisonniers ont refusé de regagner leur cellule en guise de protestation. Et d'après le témoignage qu'on a, donc c'est sorti dans la presse locale, ils protestaient notamment contre l'instauration d'un temps unique de promenade, qui était auparavant, avant le mouvement de surveillant de deux fois une heure dans la journée, qui est passé à plus qu'une fois une heure dans la journée, et aussi des retards à répétition dans la livraison des cantines, notamment, bah voilà, leur seul moyen d'avoir de la nourriture, du tabac, des produits d'hygiène, etc. Voilà, visiblement, il n'y a pas eu d'intervention des ERIS. Le mouvement a duré à peu près une heure et demie avant que les 82 prisonniers réintègrent leurs cellules. Voilà, c'est quand même marrant de voir. Finalement, je sais pas ce qu'on disait un peu la semaine dernière, hein, c'est espérer continuer à maintenir cette pression-là. Il n'y a plus la pression médiatique, mais ceux qui sont la pression qui maintiennent malgré tout de ce mouvement-là, de leur grève là, c'est la pression sur les prisonniers.
Alors, autre pression sur cette fois un prisonnier à l'extérieur, donc c'est Kamel Daoudi qui est assigné à résidence depuis 2008. Donc en gros, c'est le plus vieil assigné à résidence en France. Donc très rapidement, sa petite histoire, et après on passera une vidéo, un entretien dans lequel il explique pourquoi il se met en grève de la faim, et ça c'était courant février, grève de la faim et de la soif. Alors très simplement, en 2001, il va 4 mois en Afghanistan, et au lendemain du 11 septembre, il est arrêté et emprisonné. Les services de police le suspectent à ce moment-là d'avoir été en lien avec une association de malfaiteurs terroristes qui aurait en gros projeté de frapper l'ambassade des États-Unis à Paris. Et voilà ce que lui, il a toujours nié. Suite à ça, il est condamné à 6 années de détention et il est déchu de sa nationalité et interdit du territoire français. À sa sortie de prison, il s'oppose alors à son expulsion vers l'Algérie en faisant valoir qu'il risque la torture, et il est immédiatement assigné à résidence. Sauf que la Cour européenne des droits de l'homme juge en 2009 que la France n'est effectivement pas du tout en droit de l'expulser du territoire, vu les traitements inhumains qu'il pourrait subir dans son pays d'origine. Donc il est coincé dans un espèce de no man's land administratif, là où il est interdit de résider en France, mais il est inexpulsable, et ça fait bientôt 10 ans, comme je vous le disais, que ça dure. Donc quand on est assigné à résidence, on peut être aussi amené à changer de résidence, et c'est ce qui lui est arrivé à 5 reprises. Et il est systématiquement assigné dans des petits villages où le contrôle social est hyper fort, hyper important, et que c'est impossible pour lui, bah, du coup, d'y trouver un emploi, et que son quotidien est rythmé par 4 pointages quotidiens à la gendarmerie. Je sais pas, c'est 9h15, 11h45, 15h45 et 17h45, et l'interdiction de quitter son domicile entre 21h et 7h du matin. Donc c'est complètement inhumain, quoi. Je sais pas qui peut tenir ça. Je dirais plutôt qu'il a les nerfs solides. Fin 2016, il a été transféré du jour au lendemain de Carmo, là où il vivait avec sa femme enseignante et ses enfants, à Saint-Jean-d'Angély, donc soit à 450 km de sa famille. Début décembre 2017, le Conseil constitutionnel a examiné une question prioritaire de constitutionnalité déposée par son avocat. Et la plus haute juridiction française a estimé qu'il n'était pas conforme à la Constitution de restreindre la liberté d'une personne sans aucune limite dans le temps et sans tenir compte de son contexte personnel et familial. C'est une petite victoire pour lui à ce moment-là, mais qui aurait été de courte durée. Ce qui s'est passé, c'est que le ministère de l'Intérieur s'est démené pour contourner les décisions. Et depuis mercredi 7 février, donc lui, il avait entamé une grève de la faim et de la soif pour s'opposer à la situation qui est faite et qui s'avère aussi inhumaine que sans fin, parce que l'assignation à résidence comme ça, et avec le ministère de l'Intérieur, le maintient. Donc voilà, donc on va passer la vidéo.
Alors bonjour Kamel, alors depuis combien de temps vous faites votre grève de la faim, et quel est ce but en fait ?
Alors bonjour, en fait je suis en grève de la faim et de la soif depuis mercredi 7 février à 13h. Donc là aujourd'hui on est dimanche, il est un peu plus de 13h. Et donc ça fait plus de 4 jours que j'attaque le 5e jour parce que j'ai commencé ma grève de la faim en début d'après-midi. Donc c'est le 5e jour de ma grève de la faim. Et de la soif surtout, parce que c'est ça qui me fatigue le plus. Là, je prends beaucoup sur moi pour parler. Et en fait, j'ai fait cette grève de la faim à la suite du vote à la commission des lois, d'une proposition parlementaire de loi à l'initiative d'un député qui s'appelle M. Barnsman, qui est de l'UDI, et d'un groupe d'autres parlementaires qui l'ont suivi dans cette démarche. Et en fait, cette proposition parlementaire de loi n'a d'autre but, à mon sens, que de contourner la décision du Conseil constitutionnel auquel j'avais posé une question de constitutionnalité, une question prioritaire de constitutionnalité par rapport à ma situation. Ma situation, elle est la suivante. Je suis assigné à résidence depuis le 23 avril 2008. Donc, ça fait près de 10 ans que je suis assigné à résidence. Je fais l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, mais cette interdiction définitive du territoire français ne peut pas se concrétiser dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré dans une décision que la France ne pouvait pas m'expulser vers mon pays d'origine car je risquais des traitements dégradants et inhumains selon le sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, en fait, ma situation, elle ne fait pas de tort uniquement à moi, mais également à ma femme et mes 4 enfants. Là, ma femme est venue, par exemple, pour me soutenir, ne serait-ce que pour que je puisse faire les trajets. Donc, il y a pratiquement 5 km entre ma chambre d'hôtel et la gendarmerie. J'ai l'obligation de faire 4 pointages tous les jours, 7 jours sur 7. Et je suis confiné en plus entre 21h et 7h du matin dans ma chambre d'hôtel. Par ailleurs, étant donné que j'ai eu un retard de près de 45 minutes il y a quelques mois en arrière, je fais l'objet d'une condamnation à 1 an avec sursis. C'est-à-dire que si jamais je manque à l'une de mes obligations, il y a 1 an ferme qui tombe d'office. Et donc là, mon avocat a contacté le ministère de l'Intérieur. Il y a eu quelques relais également dans la presse locale. Et au niveau national, les réactions sont extrêmement timides. Il y a eu quelques petites brèves, quelques articles de journaux, mais pas de grande diffusion ni au niveau des radios nationales, ni au niveau des télévisions nationales. Et j'ai l'impression, en fait, effectivement, que le ministère de l'Intérieur attend que je dépérisse complètement, que je ne sois plus du tout en état de m'exprimer, pour profiter de l'occasion pour soit me mettre en garde à vue, parce que j'aurais manqué à mes obligations, soit, en tout cas, utiliser des moyens pour se délester de sa responsabilité. Donc, si je m'exprime aujourd'hui, c'est que je suis vraiment à bout. J'ai une chute de tension assez importante. Un ami m'a pris ma tension, elle est quand même assez faible. Et donc, les prochaines heures risquent de m'être fatales. Et donc, c'est pour ça que je m'exprime devant vous, pour vous faire. Pour vous alerter concernant ma situation. Et je vous remercie.
Ah, merci. Ouais.
Voilà, donc c'était une vidéo qui a été réalisée par lundi matin, et à la question de quelle différence y voit-il, donc Amel Daoudi voit entre le régime carcéral et l'assignation à résidence, il répond: le régime d'assignation à résidence est clairement plus contraignant que celui de la prison. Il est plus délétère car tu es ton propre prisonnier. Tu es le prisonnier et le gardien de prison. Ça crée un quasi-effet de schizophrénie. Tu culpabilises par la force des choses. D'un côté, tu te dis « bon, je n'ai qu'à ne pas aller pointer et sortir de la commune pour être à nouveau libre. Il n'y a pas de barreau pour t'en empêcher. » Mais immédiatement, tu réfléchis et tu évalues la situation. J'ai une famille, j'ai des enfants, je ne vais pas partir en cavale sans argent et sans rien, c'est impensable. Il faut d'ailleurs savoir que pour l'État, C'est particulièrement rentable, car assigner quelqu'un dans un hôtel bas de gamme, ça revient moins cher qu'un détenu. Donc en fait, l'État y gagne vraiment sur tous les plans. C'est cette même logique lorsque Gérard Collomb parle de privatiser certaines prérogatives de la police, ou quand le gouvernement veut mettre les fonctionnaires au pas, il y a une logique commune à l'antiterrorisme et au libéralisme. Il y a une vision holistique du pouvoir qui vise à l'asservissement volontaire des foules. Il s'agit de mater toute forme de contestation, qu'elle soit syndicale, militante ou politique. C'est aussi à cela que sert le croque-mitaine terroriste. Le slogan « En marche », c'est pas un hasard. Quand j'ai vu ce slogan, j'ai tout de suite compris que « En marche », ça serait une marche forcée. Donc oui, bien sûr qu'on instrumentalise le terrorisme. C'est notamment pour cela que j'ai commencé cette grève de la faim. On attend de moi que je pète un câble et que j'égorge quelqu'un. Sauf que cette intention, je ne l'ai pas et je ne l'ai jamais eue. Mais je suis quelqu'un qui a une certaine dignité. Donc voilà. Donc avec toutes les assignations à résidence qu'il y a eu ces derniers mois, on peut se dire que des Kamel Daoudi, il y en aura dans une dizaine d'années, il y en aura encore. Et voilà, donc là vraiment, donc lui il a arrêté sa grève de la faim par contre, et sa grève de la soif, et voilà, et j'ai aussi vu qu'il avait un fil Twitter où il relaie pas mal de choses, voilà. On va passer une petite musique.
Allez.
C'est Rémi, c'est ça ?
Tout à fait.
Depuis la naissance, donc on veut tout. Petite sœur, dis-moi pourquoi tu sors court vêtue. En temps de guerre, on t'emmènerait pas chez le veto. Je connais la rue, je fais du rap, j'ai du vécu. Eh, on traîne en bande à trois ou tout seul. Je sais plus où je suis, j'ai perdu ma boussole. Les coups de feu la nuit ressemblent aux lucioles. Les chemises t'entourent le checks comme si à Michael. Et dans nos checksons, c'est l'oseille ou le plomb. Parce que toute la vie, la faim pour un plat vrai pont. T'as pris des thunes, tu commences à cirer gros mon con. Depuis que t'as vu grandir, vont te la mettre dans le fion. Et c'est le feu quand un poteau est libérable. Tu pèses à ta vendre, c'est normal. Et maman a des problèmes d'oseille. Manque de sommeil, moi mon poteau, j'en dors mal. On traîne avec jogging délavé, on s'emballe au coup de la vie. On se rappelle même plus de la veille. Rêver que t'en regardes pas dans le vide. Moi j'ai écrit mes rêves à la craie. Les larmes de la rue l'ont effacé. Et je vis toujours avec le cœur froid. Depuis que la vengeance est glacée, on n'a pas la fève, moi mes fermes, je l'ai peiné. Je suis dans la rue comme l'agent Ravir Peña. Et si t'as des goûts, t'as pas besoin d'être gainé. Mental de gagnant, gros, si on veut, on aura pas de place pour la mythomanie. Si j'aime pas tes manies, gros, parle pas avec moi. On a connu la zermie et les rivalités. Si tu vends plus d'une quête ploie, devant la juge Kayaté. Quand la vie te tabasse, y'a pas de karaté. Jamais voulu abandonner. Sème le travail et récolte la qualité. On passe nos vies à papoter. Faut agir sinon maman va pas manger. Faut vivre avec le danger. Faut jouer avec le feu mais sans se faire brûler. Libérez mes refrains s'il vous plaît monsieur. On sait tous que cette pute de vie nous malmène. Quand tu remplis les poches t'as de chi toute beuh. Tu sais que si ça paye pas tu vendras la mouette. Et c'est pas la même et ça me fait de la peine. En Valka tu réponds même pas aux appels. Toi les keufs te craignent parce que tu les saignes. Toi les keufs te saignent parce que tu les sèmes. C'est Rémi. J'essaye de m'en sortir, jamais vendu le mal. Les petites checks derrière craft on émane. La vie n'est pas rose, on veut le billet violet. Mon cœur à la maison, mes sentiments voilés. J'essaye de m'en sortir, jamais vendu le mal. Les petites checks derrière craft on émane. La vie n'est pas rose, on veut le billet violet. Mon cœur à la maison, mes sentiments voilés. Dans ce son pas trop franc, je veux pas m'arrêter. Chez moi c'est la cité, ça barre au dents vito. Coupe avec les doigts sans rien peser. La France faut la baiser, mais avant fait des loves. BST qui sait pas, oh là qui va là. Maintenant pour liquide, gros, elles font cavaler. Je respecte les femmes parce que je respecte la maman. On est des chiens méchants, on fait pas qu'aboyer. Vécu de brassard, dis-moi qui tient le brassard. Donc on va te porter l'œil si t'es celui qui brasse. On a cafard, fais des sous avant j'tard. Nique tes 7 ans de malheur, c'est pour tous mes casseurs. Pris de gaz sur une route bétonnée. Et quand tu le béton, tout le monde fait l'étonner. Moi j'ai traîné en bas, t'as qu'est-ce tu connais. On peut suivre ta voiture si t'as la Rolex. On se rend pas compte de la pauvreté. Feu rouge, un petit laf, t'es vite teinté. Et ce mec là qui dictait son refrain. T'étais où quand j'avais 100 abonnés. Ton pote est en pépé, t'as la rebat. Et tu dis qu'un beau jour ce sera quoi. Dans un hall assis sur des escaliers. Tu cherches ton feu, tu sors tout le taille. On a pas la fève, moi mes frères mangent les pastas. Et ça saurait si l'argent on empestait. On veut contrôler le monde, demande un peu ce quoi. Dans le secteur quand y'a embrouille, ça coupe les lumières. Pas de place pour la mythomanie. Si j'aime pas tes manies, gros, parle pas avec moi. On a connu la zermie et les rivalités. Si tu vends plus d'une quête, blah. C'est Rémi.
ça déroule derrière là, ils ont ramené toutes les motos.
Et voilà, vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM et Radio Canus en 2.2 à Lyon. Donc là, on a une invitée qui nous appelle, c'est Rosa de Marseille, pour nous parler de la situation de Samy. Donc Samy, c'est un jeune homme qui est incarcéré au Beaumet. Alors on avait parlé de lui courant en septembre quand on avait repris cette émission, notamment parce que il s'était passé pas mal de choses pour lui au Beaumet et il avait notamment pas pu aller voir sa mère qui était décédée, on lui avait pas autorisé un transfert. Il s'était fait agresser par des surveillants sortis de l'UXA, donc de l'unité des soins ambulatoires. Voilà, il s'était passé différentes petites choses. Alors, il y a un collectif de soutien qui a écrit un texte. Bonjour Rosa.
Oui, salut.
Ça va ?
Salut. Oui, ça va.
Merci à toi d'appeler.
Donc justement, je suis là pour raconter l'histoire et la lutte... Samy, et je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je vous demande quelque chose.
Non, mais vas-y, hein, vas-y, prends le temps.
Sans raconter quelques anecdotes qui parlent de la personnalité et de la lutte de Samy, donc s'il n'a plus de temps, coupez-moi avant.
Ah non, non, mais c'est prévu hein, que tu parles, donc ne te casse pas la tête. Est-ce que tu veux juste que je lise le communiqué comme tu me l'avais demandé ou pas ? Le communiqué de soutien.
Peut-être à la fin.
Eh bien, on verra à la fin s'il reste du temps.
Donc, parce qu'en fait, on lance un appel de solidarité avec Samy, une caisse de solidarité pour rassurer sa défense, pour rémunérer son avocat. Mmh. Et pour ça, ça sera, le mieux, ce sera nous contacter à la émission Parlo à Libre de Marseille. Et le contact par mail, c'est parloalibre@gmail.com. ou le numéro de téléphone 07 53 13 12 08 ou par Facebook la page
de Parloir Libre.
Le Beaumet n'est pas le Club Med. Mais bon, juste pour raconter de Samy, que le premier contact on a eu avec Samy le 28 août quand il a eu le courage d'appeler la radio Passe-Muraille. Il se dit que le courage parce qu'il a eu une soi-disant coup de peine de 18 mois et quand même il a eu le courage d'appeler la radio pour faire un appel de solidarité parce qu'il a fait une grève de la faim déjà pour, en solidarité avec son co-détenu Abdelalim Trazibi, aussi pour faire un appel de solidarité pour, contre la condition de détention que tous les détenus de Beaumet suivent. Et aussi parce qu'il y a des revendications, comme tu as déjà raconté, que sa demande de voir sa mère avant de mourir était refusée, et même c'était refusé sa demande d'aller à l'enterrement. Aussi, il a demandé de transfert pour rapprochement familial, ça aussi c'était refusé. Donc, ça fait que depuis son incarcération de février 2017, il ne pouvait pas voir ses enfants. Quand ils ont fait la grève de la faim avec Abdelalim Trazibi, le frigo était enlevé.
Donc c'était son codétenu.
Comment ?
C'était son codétenu.
Son codétenu.
Ouais.
Oui. Donc ils ont fait ensemble la grève de la faim et le frigo était enlevé, le frigo qui est au loup. Donc ils étaient payés, non ? Ajouté. L'eau était coupée. Et le suivi, la demande de certificat médical était refusée. Et quand Samy, même lui, a lavé une lame de rasoir, la réponse de Maton, c'était « La lame de rasoir se digère bien. » Donc, pas de souci.
Quel cynisme.
Et oui. Même malgré tout cela, il a eu le courage de nous demander de publier des articles sur un volet. Il m'a aussi parlé à la presse officielle. Notamment, il avait deux conférences de presse à Marseille. En septembre, début septembre, et après en janvier, à la base d'un rapport fait sur la condition de tension au Beaumetre par la journaliste Rabata. Et là, c'est Sami même qui a demandé qu'on parle à son nom, même en donnant son nom complet. Depuis là, les remarques et les menaces de Maton sont continues. Même ils ont dit clairement, tu voulais faire le malin, et voilà, finalement, tu seras le dernier de partir de Beaumetre. Vu qu'il a lutté, il voulait être transféré de Beaumetre. Et notamment, c'était le dernier, lui, était le dernier qui est passé du bâtiment A à bâtiment B. Et que normalement, bientôt, le Beaumetre historique sera fermé. Et au moins, pour le moment, lui, c'est le dernier. Après, on a perdu le contact avec Sami parce qu'il était au mitad. Et même lui, il a bloqué le mitad en craignant les représailles des matons, vu qu'il était et qu'il est toujours menacé par les matons. Et c'est une co-détenue qui nous a informé de que si on n'a pas de nouvelles de Sami, c'est parce qu'il est au mitad. Et depuis là, ses courriers sont bloqués, même le courrier d'avocat. L'aménagement a été refusé à cause de son comportement dans la prison. Transfert refusé, fouille constante dans la cellule, et même par toutes les choses qu'on a publiées sur un volet, tout ce que par différents réseaux anticarcéraux on a publié, il a eu, heureusement, il a eu beaucoup de courriers, beaucoup de lettres qu'il a reçues de différentes gens. Par contre, il y a plusieurs qu'il n'a pas reçus et qui s'y répondent pas, c'est parce que
c'est bloqué.
Sont bloqués.
Ce qui est une pratique de l'administration pénitentiaire, hein, que de bloquer le courrier pour faire chier les prisonniers.
Marie, mais même les courriers à l'avocat, c'était bloqué. Que...
Alors, c'est
ce qui est interdit
pas.
Officiellement.
Plus grave encore. Encore après, il est entamé de la grève de la femme, il a excisé le docteur de l'extérieur, ça aussi s'était refusé, et si finalement il a eu le certificat médical et un suivi médical, c'est grâce au bout de 12 ou 15 jours, je ne sais plus, mais 12 ou 15 jours, c'est grâce aux hommes, ses amis, qui ici, on s'est mobilisés pour lui à l'extérieur, et même on a réussi, mais à plusieurs reprises, qu'il puisse avoir un rendez-vous avec le défenseur des droits. Ensuite, il a bloqué la cellule, pas craindre aux surveillants, parce qu'ils ont bien dit que ici, ça va être l'enfer pour toi, mot par mot. Ensuite, quand il a eu un changement de cellule, ils ont dit, une surveillante a dit, mettez-le dans la pire des caves. Alors, quand il a réintégré sa cellule, il n'a pas trouvé ni ses avis, ni la plaque chauffante, ni le 400 euros de cantine, ni tabac. Il a craqué, finalement, il a mis feu au drap, mais afin de s'asphyxier. Les matons disent maintenant qu'il a brûlé et dégradé toute la cellule et qu'il les a menacés. Et donc, c'est pour ça que le 5 février, normalement, il a passé au tribunal pour dégradation de cellules et menace de surveillance qui a été reporté pour lundi 26 mars. Et c'est pour ça qu'on demande soutien déjà dans le tribunal pour les gens qui peuvent venir, les gens sur Marseille. Et c'est pour ça qu'on fait la caisse de solidarité.
Donc, le 26 mars, donc, il passe en procès.
26 mars au tribunal correctionnel de Marseille. En plus, pour dire que déjà, on lui a collé des propos de menaces que lui, il n'a jamais dit. Par exemple, qu'il a dit, selon les matons, il a dit que sur l'islam, je te menace, je te dis ça, que je te promets, que par Allah, je te menace. Mais c'est-à-dire qu'on veut lui coller même l'accusation de radicalisation. Qui n'a jamais dit. Par contre, ce qui s'est passé, plutôt, que quand on lui a mené au mitad.
Attends, tu peux revenir sur ce truc de radicalisation. Qu'est-ce qu'ils disent là que.
Mais en fait, ce qui se passe, que dans la déclaration de Maton, déjà, c'est super contradictoire.
Ils disent que s'il est violent,
déjà, c'est super contradictoire parce qu'il y a trois surveillantes qui déclarent, mais trois choses différentes. Donc déjà, il faut dire quelle est la vérité si les trois surveillants déclarent de différentes choses. Mais déjà, il a dit que sur l'islam, je te promets, qu'il menace sur l'islam ou par Allah.
Ouais, mais l'islam, ça a toujours bon. En ce moment, l'islam, ça a bon dos pour beaucoup de choses en prison.
Mais c'est hallucinant comme ce truc-là de radicalisation. C'est devenu, je dirais, un outil répressif de plus, vraiment pour mettre la pression aux prisonniers à l'intérieur. Il y a un texte qu'on n'a pas lu là, mais du premier collectif là qu'on a lu au tout début d'émission, qui parle précisément de ça et qui raconte ce truc quoi. C'est assez fou.
Il y a juste pour aggraver l'accusation. Et déjà le 5 janvier, c'est assez mal passé vu que son avocate ne pouvait pas être présente. Et comme c'était reporté, donc si c'est reporté, c'est juste ce qu'il faut dire, c'est reporté. Mais par contre, à part ça, on lui a posé des questions que je trouve pas trop normales parce que c'est reporté, il faut pas poser des questions. Et vu que c'était l'après-midi, l'audience, il devait sortir, on l'a fait sortir, on a fait le transfert à 6h30 du matin, sans manger, sans lui donner du tabac. Et en plus, c'était le jour de l'anniversaire de son fils. Et encore, on lui pose des questions quand normalement c'est reporté. Mais lui, franchement, il a pété et il a dit des choses pas trop sympas au magistrat. Donc, on espère bien qu'il ne va pas avoir encore l'accusation d'outrage au magistrat la prochaine fois, le 26 mars.
Ouais, mais il pousse les surveillants, enfin, est couvert par la justice, pousse à bout les personnes qui sont enfermées. Et là, c'est un exemple une fois de plus. En fait, ils veulent, enfin, les matons, s'ils pouvaient le voir mort, ça les arrangerait bien, en fait, quoi.
Comment, j'ai pas compris la dernière.
Je dis, si les matons au passage pouvaient le voir mort, ça les arrangerait bien. Ils ont aucune estime de la vie de celui qu'ils enferment.
Mais oui. Excuse-moi, mais je ne sais pas si j'ai bien compris parce qu'il avait le son assez mal.
Non, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, ouais, en tout cas, cette histoire démontre une fois de plus la pression que mettent les surveillants sur les prisonniers, quotidienne, cynique et abjecte. Il n'y a pas d'autre mot. Et tout ça, c'est validé par la justice.
Déjà, ça conditionne l'audience même. Allô?
Oui, je t'entends plus. Oui, dis.
Oui. En fait, je voulais encore raconter que par contre, ce qui s'est passé, que c'est lui qui passe pour menace de surveillance et dégradation des cellules, mais ce qui s'est passé, quand on l'a amené au mitad, il même lui a dit, OK, mais amenez-moi au mitad. En fait, il n'a pas peur du mitad. Même c'est lui qui a bloqué au mitad, pour rester au mitad, pour avoir déjà un transfert disciplinaire. On l'a traîné par terre entre plusieurs matons. En plus, c'était complètement gratuit parce qu'il était très affaibli pour la grève de la faim. Il est très maigre même aujourd'hui. En plus, avec une maladie des poumons, et donc c'est lui qui a subi des agressions par les matons. Et quand lui il a porté plainte pour l'agression subie par les surveillants, on a recherché ses papiers. Normalement, la SPIP a dit que déjà ses papiers c'est dans le tribunal. Et quand on a cherché une copie de ses papiers, parce qu'il y a une copie de ses papiers au SPIP, la SPIP a dit que ça traîne encore, excusez-moi, je ne trouve pas, ça traîne encore dans mon bureau. Donc on ne peut pas retrouver ses papiers pour amener ses papiers à son jugement. Et en plus, la SPIP lui a dit, mais après vous aussi, vous n'êtes pas trop gentil, parce que les menaces, les mots blessent l'âme.
Ouais, bon, elle peut se garder ses considérations, celle-là. Mais en tout cas, ouais. Et du coup, donc toi, donc il y a un rassemblement qui est prévu devant le tribunal ou pas?
Bah, pas rassemblement, mais être au tribunal.
Être au tribunal.
Donc, oui, dans le tribunal le 26 mars, oui, l'après-midi.
Et c'est à quelle heure?
Mais normalement, à partir de 2h.
Oui.
Donc, à partir de 2h, quand il passe.
Ok. Et vous allez mettre, vous avez écrit un texte là-dessus pour l'appel à venir au tribunal, assister au procès.
On va diffuser dans les prochains jours.
Ok.
On va diffuser dans les prochains jours.
Bon bah on le relaiera nous par ici en tout cas.
Mais déjà, je voulais vous raconter quand même, si c'est possible.
Alors, il reste deux petites minutes.
Comment ?
Il reste deux petites minutes. Enfin, si tu veux, même cinq. Allez, puis après, on la fera court pour nous.
Pour parler de Samy, qui ne lutte pas seulement pour lui, sinon pour, si on peut dire, pour tous les prisonniers. Déjà, pour dire que, par exemple, il y a une super proposition. Bon, je ne sais pas si je trouve super proposition. On verra si c'est faisable. Mais il veut faire appel, par exemple, au rapport français pour faire des concerts de soutien en solidarité, pour faire une caisse de solidarité, pas pour lui, sinon en général, pour tous les prisonniers qui ont le même problème que lui, de payer, par exemple, les avocats. Après, une autre chose qu'on appelle, on va mettre le maître de blocage de cellules, parce qu'il a développé un système de pouvoir bloquer sa cellule 6 fois par jour, notamment l'autre jour, les matins, au Bomet, ils ont été obligés d'acheter un carton de serrure pour dire que ben, si tu bloques la cellule, nous aussi on est quittés. Et notamment la dernière fois, parce que moi j'ai parlé avec lui, donc c'est comme ça qu'on est toujours en contact. Quand la douce était refusée de la part de Maton, comme ça, de caprice de montrer son autorité, c'est lui qui a fait le bordel, il a bloqué encore sa cellule, il a refusé d'entrer sans prendre la douce, et finalement, tous les auxiliaires de Beaumet, historiques, ils ont pris la douce grâce à Samy. Et en fait, grâce à lui qu'on a contact avec plusieurs personnes au Beaumet, à un moment donné, il a téléphoné, il a participé activement à la radio Parlo à Libre. Maintenant, si par appel, il ne fait pas, c'est parce que sa cellule est constamment fouillée. Mais par contre, il n'arrête pas d'envoyer des lettres, des textes, et même des textes qui posent des questions aux autres prisonniers de Beaumet pour faire un échange, pour faire un dialogue. Donc voilà, Samy.
D'accord. Et ce qu'on fera, c'est qu'après le procès, la prochaine émission Papillon, du coup, donc ça le premier jeudi du mois d'avril, eh bien, tu rappelleras cette antenne pour raconter ce procès et dire, voilà, donner un peu des nouvelles de Samy.
Oui, sûr et certain. Et je remercie beaucoup, je remercie tous les courriers qu'il a reçus grâce à cette raison.
Bon, et ben merci à toi en tout cas de nous avoir appelé. Et puis est-ce que tu peux rappeler l'émission sur Passe Muraille, c'est quand
Non, c'est pas Passe Muraille, sinon Parloir Libre.
Parloir Libre, pardon. Donc Parloir Libre.
Si quelqu'un veut avoir un contact avec Samy, donc par Parloir Libre, émission Parloir Libre sur Radio Galère à Marseille. Chaque jeudi et chaque samedi. Mais en tout cas, par mail, c'est parloalibre@gmail.com ou le numéro de téléphone 07 53 13 12 08.
Bon, et ben parfait. Merci à toi, Rosa. Et
merci
à bientôt.
À merci.
Salut.
Ciao. Merci.
Salut.
Alors, on va parler de ça, on va annoncer maintenant la tournée de Pisser dans l'herbe. Donc, Pisser dans l'herbe, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par un metteur en scène, en tout cas pour la mise en scène, mais surtout les textes qui sont lus dans cette pièce, c'est des textes de Christine Ribailly, qui est une ancienne prisonnière, bergère de sa profession, hein, parce qu'elle en parle souvent de ça. Et en fait, c'est sa correspondance, la sienne. Il y a quelques autres extraits de courriers d'autres prisonniers. voilà, qui raconte le quotidien de manière assez claire et précise, le quotidien carcéral, la violence extrême des surveillants, la répression, parce qu'à nombreuses reprises, elle va se faire défoncer par des surveillants, notamment suite à ses actes de résistance, en fait, à l'intérieur, pour pas se faire écraser, parce que aussi pour elle, c'était une manière de tenir que de résister.
Et prendre...
Et elle a pris des peines à chaque fois supplémentaires pour ça. Et elle est sortie, maintenant, ça va faire quasiment moins d'un an, mais ça commence à faire 8 mois environ. Voilà. Du coup, cette pièce, donc, c'est la troisième fois qu'elle tourne en France. Elle était passée à Saint-Étienne. Et là, il y a une tournée sur l'agglomération lyonnaise. Avec plusieurs dates et pourquoi ça fait lien avec Samy, parce que Samy parle beaucoup des autres prisonniers, c'est important d'aller voir cette pièce. Les dernières fois, elles ont été en soutien à des prisonniers, tous les bénéfices ont été reversés à des prisonniers. Donc il y a eu pour un soutien qui a été fait pour Fabrice Borromée, pour que son frère puisse venir le voir depuis la Guadeloupe jusqu'en France, parce qu'il est incarcéré en France et sa famille est en Guadeloupe, et le billet d'avion, bah, pour aller au parloir, c'est un billet d'avion, donc ça coûte extrêmement cher. Et la deuxième tournée, les gains récoltés ont servi à soutenir Romain Leroy et sa famille, qui a pris 5 ans supplémentaires suite à la mutinerie de Valence. Donc voilà, donc les quelques dates qui sont... donc il y a 4 ou 5 dates, si tu peux les lire.
Alors le dimanche 25 mars à 19h à l'Arche de Noé, 3 rue Félicin, à Lyon 7e. Lundi 26 mars à 18h30 à Lyon 2, campus Porte des Alpes, dans la salle polyvalente. Mardi 27 mars à 20h à la MJC Saint-Rambert, Île-Barbe, 4 rue Sylvain Simondan, dans le 9e à Lyon. Et le mercredi 28 mars, il y a info plus précise à venir, c'est dans un squat, toujours vers Lyon.
Bon, ouais.
Voilà, j'en sais
du,
pas plus.
Du coup, voilà. Donc, l'émission va toucher à sa fin, et avant de saluer... les prisonniers, les prisonnières des maisons d'arrêt de la Talaudière, de Corba, du centre de détention de Saint-Quentin, Falavier et l'EPM de Mézieux. Il y a des gens qu'on ne va pas saluer et pour de très bonnes raisons, parce que ce sont des procureurs, des juges et voilà. Donc première personne qu'on ne va pas saluer, ça va être le juge, un des juges du tribunal correctionnel de Roanne, qui a abondé et surabondé dans le sens des réquisitions du procureur, qui demandait 6 mois à l'encontre d'une maman rome, mère de 5 enfants, avec un bébé en bas âge allaitante. Donc ce procureur demandait 6 mois à l'encontre de cette maman pour avoir giflé l'institutrice de sa fille. Et le juge du tribunal correctionnel, lui, il a... et je pense qu'il n'aime pas les Roms, et il n'aime pas les mamans, et il n'aime pas les gens tout court. Il déteste même les gens, parce qu'il lui a donné une peine d'un an, ferme à cette maman. Alors même l'institut qui a porté plainte, je sais pas de quoi ce qu'elle doutait, mais bon, elle dit qu'elle pensait pas que porter plainte ça amènerait à ça, enfin elle est blasée que cette dame ait un an de prison en fait. Donc voilà, donc ça amène à réfléchir sur quand on porte plainte, ce que c'est de porter plainte.
Il n'y a pas eu même un rassemblement.
Il y a eu un rassemblement d'enseignants, devant le tribunal. Qui demandaient justement une condamnation. Mais est-ce qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils demandaient? Eux, ils sont enseignants. En face, c'est une maman rome. On n'est quand même pas sur le même pied. Et évidemment, la justice, elle allait se faire un régal de condamner cette maman à un an de prison. Donc, elle est aujourd'hui à la Talaudière. Donc, voilà. Autre personne qu'on ne saluera pas. C'est le surveillant qui a trouvé, le surveillant de la Talaudière qui a trouvé lors d'une fouille à nu un poster de foot dans la chaussure d'un prisonnier de 30 ans. Voilà. qui a voulu lui confisquer et normal, ben quand même ce surveillant zélé là qui bloque sur des posters de foot dans la chaussure qui rentre par le parloir, hein, c'est très dangereux un poster de foot. Donc il a porté plainte vu qu'il s'est fait insulter. Et donc le jeune qui était déjà incarcéré pour une peine de 27 mois, et ben en plus de ça, donc il s'est en plus fait condamner à 6 mois de prison. Donc voilà, donc par le juge du tribunal correctionnel toujours cette fois de Saint-Étienne. Donc procureur, juge, surveillante, vous salue pas, voilà. Et par contre, tous ceux qui sont enfermés et leurs proches, on a une pensée pour vous.
Et puis, dédicace à tous ceux qui pensent que la justice est laxiste et que la prison, c'est une Club Med.
Exactement. Voilà.
D'ailleurs, on ne vous salue pas non plus.
On ne vous salue pas. Même quoi, je crois qu'on ne vous aime pas trop.
Voilà. Bon, en tout cas, si par hasard, il écoute... voilà,
c'est... Le jeune qui est enfermé, mais je crois qu'il est au quartier disciplinaire. Là,
voilà.
Donc,
voilà, en tout cas, si vous avez des infos en plus par rapport à ça, vous n'hésitez pas à nous écrire justement à Émission Papillon chez CSA La Gueule Noire, 16 rue du Mont, MONT 42100 Saint-Étienne, ou par internet Émission Papillon tout attaché et sans accent @riseup.net, riseup.net.
Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner au journal L'Envolée. Quand vous êtes prisonnier et prisonnière, c'est gratuit. C'est gratuit pour vous. Sinon, vous pouvez retrouver l'envolée à la librairie L'Une et l'Autre, L'Étrange Rendez-vous à Saint-Étienne, Un Petit Noir, Terre des Livres et La Griffe à Lyon. Mmh. Voilà. Bon. La semaine prochaine, La Petite Cuillère. Bonne soirée à vous.
Et nous, on se retrouve dans 3 semaines, du coup. Allez, salut, courage à vous et à bientôt.
Prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela, pois ela é minha menina. Eu sou o homem.
Et nos regards qui se répondent, les mains pressées, serrées, lacées, nos deux corps et tous ces baisers, tout ça, je m'en souviendrai.